un podcast France Culture.
Bonjour Alexandra Delbault.
Bonjour Guillaume.
Au menu du Journal des Sciences aujourd'hui, l'effet du cycle reproducteur sur le comportement des souris. Notre eau terrestre est plus vieille que le Soleil. Des images du ciel contaminées par des satellites. Et on débute ce journal avec le blob, un organisme unicellulaire capable d'inverser le cours du temps.
Oui, son nom scientifique, c'est Physarum polycéphalum. Ce n'est ni un animal, ni un végétal, et ce n'est pas non plus un champignon. Le blob fait partie de la famille des amibes. Il peut s'étendre sur 10 mètres carrés, mais n'est composé que d'une seule et unique cellule. Et on a longtemps pensé que les organismes unicellulaires ne vieillissaient pas, qu'ils étaient en quelque sorte immortels, parce qu'on avait du mal à l'observer. Si on considère la durée de vie chronologique, avant une nouvelle division, le temps est en général bien trop court pour qu'on puisse suivre ce vieillissement. Et si l'on considère le nombre de divisions avant la mort, le suivi des divisions successives est bien trop complexe. C'est là où le blob présente des avantages. D'abord, il est facilement cultivable en laboratoire. Et ensuite, il peut être conservé dans un état unicellulaire pendant très longtemps, comme une seule et unique cellule géante. C'est donc un modèle idéal pour étudier l'impact du temps sur ces organismes. Et on sait qu'il y a des signes de vieillissement chez les vieux blobs. Plus un blob est âgé, plus il devient lent. Pour voir si ce ralentissement se maintient, ces scientifiques ont fait entrer des blobs de différents âges, d'un mois à deux ans, en dormance, en leur coupant les vivres. Puis, les blobs ont été réveillés. Et dans une seconde expérience, on les a mis en présence de blobs plus ou moins jeunes pour qu'ils fusionnent. Résultat, les vieux blobs peuvent inverser leur vieillissement, soit en entrant en dormance, soit en fusionnant avec de jeunes blobs. On parle de réjuvénation. Audrey Dussutour est directrice de recherche CNRS au Centre de recherche sur la cognition animale à l'Université Toulouse 3 et co-autrice de l'étude.
Ce qu'on a pu révéler, c'est que les blobs qui avaient donc qui souffraient en fait de ce ralentissement à l'issue de la dormance ne souffraient plus en fait de ce défaut de vitesse puisqu'ils allaient aussi rapidement que des blobs jeunes. Donc il y avait en effet cette forme de régénération, en tout cas sur la semaine qu'on a observée. On sait d'études antérieures que le blob peut détecter à distance la présence d'un congénère. Et on s'est aperçu que le blob préférait se diriger vers les sécrétions d'un blob jeune, quel que soit son âge, que ce soit un blob âgé ou jeune. Et on s'est demandé, tiens, est-ce qu'il y avait un intérêt à aller vers un jeune? Donc on a fait fusionner des blobs jeunes avec des blobs âgés pendant 3 heures, puis on les a séparés. Et on s'est aperçu que les blobs âgés, finalement, récupéraient un petit peu, puisqu'ils allaient aussi vite que des jeunes une fois qu'ils avaient fusionné avec un jeune. Donc on avait l'impression que cette régénération suite à la période de dormance pouvait être aussi observée suite à la fusion avec un jeune congénère. Ben alors c'est vrai que là c'est vraiment une étude préliminaire puisqu'on a suivi en fait les blobs juste une semaine après la période de dormance et une semaine après la fusion. Donc on ne sait pas si cette réjuvénation elle est transitoire ou si elle s'observe vraiment sur plusieurs mois. Donc il faudrait continuer l'étude. Et actuellement on est aussi en train de regarder ce qui se passe au niveau cellulaire. Et ce qu'on a observé, c'est qu'on a du stress oxydant qui s'accumule avec l'âge. Donc, c'est pas juste un défaut de comportement. On a aussi des problèmes cellulaires. Et ce stress oxydant, suite à une période de dormance, il semblerait qu'il diminue également. Là, il y a vraiment une grosse portée parce que là, on est vraiment dans un vieillissement cellulaire classique. Ça se rapproche de ce qu'on peut observer sur nos propres cellules. Et donc, la suite, en fait, de ce projet, c'est d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui permettent au blob, finalement, ce phénomène de réjuvénation.
Dans la suite de l'actualité scientifique, Alexandra, le cycle reproducteur des souris de laboratoire n'a pas d'incidence sur leur comportement.
Oui, c'est un vieux débat. Le comportement des souris femelles est-il affecté par leur cycle reproducteur? C'est une question essentielle lors de la réalisation d'études scientifiques, car il faut des individus stables, constants. Sinon, cela risque de fausser les résultats. C'est pourquoi de nombreuses études impliquant des souris ont eu tendance à n'utiliser que des mâles. Pour tenter de trancher cette question, ces scientifiques qui publient dans Current Biology ont étudié le comportement exploratoire de souris mâles et femelles. C'est-à-dire qu'ils ont suivi le déplacement individuel de souris mâles et femelles dans un enclos, tout en associant leur capacité d'exploration, donc leur façon d'explorer l'enclos, aux différentes phases de leur cycle reproducteur. Résultat, pas de différence particulière entre individus au-delà de la variabilité propre, donc aucun effet de la fluctuation des hormones sexuelles. Il y a même un résultat un peu plus étonnant, le comportement des souris femelles semble plus stable que celui des mâles. Donc à l'inverse, dans les expériences sur des souris d'un seul sexe, il faudrait plutôt choisir des femelles. Mais surtout, les auteurs insistent sur le fait qu'il faudrait à l'avenir utiliser des animaux des deux sexes, et que ces animaux ont de manière individuelle des comportements propres. En clair, même s'ils sont génétiquement identiques, ils ne sont pas totalement interchangeables.
Tout autre chose, l'eau terrestre est en réalité plus vieille que notre système solaire.
Oui, et pour le mettre en évidence, les astronomes qui publient dans Nature n'ont pas regardé notre système à la loupe, mais un objet situé à 1300 années du mer de nous, grâce au télescope ALMA et du VLT. V883 Orionis. C'est un disque protoplanétaire, un amas de gaz et de poussière, le stade juste avant le début de formation des planètes. Et la particularité d'Orionis est d'être très chaud, et c'est rare. L'eau là-bas n'est donc pas sous forme de glace, mais de gaz, ce qui permet de la détecter bien plus facilement. Ce qu'ont regardé ces chercheurs et chercheuses, ce n'est pas seulement la présence d'eau commune, H2O, mais aussi celle de l'eau dite lourde ou semi-lourde, où l'hydrogène est remplacé par du deutérium. Ce rapport entre eau lourde et semi-lourde et l'eau commune nous permet de savoir où l'eau s'est formée. Résultat, la composition de l'eau d'Orionis est très similaire à celle des comètes de notre propre système solaire. Selon les auteurs, cela confirme l'idée que l'eau des systèmes planétaires s'est formée il y a des milliards d'années, avant le Soleil, dans l'espace interstellaire, et que les comètes et la Terre en ont hérité de manière relativement inchangée. En revanche, cela ne répond pas à la question de savoir comment l'eau est arrivée sur Terre.
Et pour terminer, les images du télescope Hubble sont pollués par les satellites.
Oui, c'est un effet qui était attendu. Les satellites réfléchissent la lumière et puisque les télescopes spatiaux ou au sol ont besoin d'un temps long d'exposition, de grandes traînées de satellites apparaissent sur ces images. En l'occurrence, des scientifiques qui publient dans Nature ont tenté de quantifier la présence de ces traînées sur les images de Hubble. L'avantage, ou plutôt le désavantage, étant que ce télescope est situé à une orbite assez basse, donc comme le sont les satellites. Les scientifiques ont fait appel aux 11 000 astronomes amateurs du projet Hubble Asteroid Project. Le but, noter toutes les images qui présentent ces traînées. Résultat, 2,7% des images de Hubble sont polluées. Un chiffre qui a doublé entre 2009 et 2020. En 2021, 5 à 6% de ces images sont contaminées. Pour l'instant, cela n'entrave pas la recherche scientifique, mais les auteurs alertent sur la menace grandissante que représentent ces objets et leur déploiement à venir pour l'observation du ciel.
Merci Alexandra Delbo.